Bonsoir à tout le monde. Je n'ai pas pris mon téléphone portable que j'ai laissé dans la loge pour vous montrer comment le mettre sur avion ou ne pas déranger, comme on dit. Donc, merci d'y penser, ça sera gentil. Voilà. Bien, comme on dit, le rouge est mis. Hein, voilà. Cher Éric Orsenna, bonsoir et très heureux d'accueillir monsieur l'académicien français. Donc je ferai à personne l'injure de vous présenter, ni à vous, ni aux personnes qui sont dans cette belle salle de la station Ozone, que vous connaissez fort bien. Votre œuvre est prolifique. La liste de vos ouvrages court sur 3,5 pages de votre dernier livre. Et le premier publié, il a été en 1974, au Seuil, je crois que c'était Loyola's Blues.
J'ai progressé en titre depuis.
une dizaine de livres, mais Loyola's Blues, c'est parce que vous avez été dans ce cercle fait par des jésuites quand vous étiez jeune.
Eudiste.
Voilà.
C'était variante.
une dizaine.
Je disais que ma formation, c'était une éducation religieuse et un post-doc avec François Mitterrand.
Voilà, exactement.
Et comme ça, on peut affronter les difficultés de la vie.
Et d'ailleurs, on en conviendra.
Quelques valeurs et quelques négociations.
Donc, je continue. Oui. Une dizaine de livres ont été publiés avant le tournant de l'an 2000, dont les très fameux Expositions coloniales en 1988, qui vous a valu le prix Goncourt et que vous réévoquez d'ailleurs dans le livre dont nous allons parler ce soir, Grand Amour, Mémoire d'un nègre, remarquable livre, en 1993. Et puis, depuis 2000, vous publiez un livre par an. Je note deux petits passages à vide, si j'ose dire. En 2002 et 2011, on se demande ce que vous avez fait ces deux années-là.
Mais si comme vous voulez en 2008, qu'on parle de ma vie privée, quand vous voulez.
Mais comme en 2008, vous aviez publié 3 livres et 2 en 2009, votre moyenne annuelle est très largement maintenue. Alors, ce soir, nous allons parler de la terre à soif, et vous nous offrez un cadeau d'importance. Et dans vos remerciements, vous citez nombre de personnes, et parmi elles, une mention très spéciale à Elisabeth Hérault, qui fut PDG de la Compagnie Nationale du Rhône, la CNR. Alors, je précise bien la CNR, je précise bien le genre, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec un sigle d'actualité. Et vous avez créé avec Madame...
Enfin, qui voudrait d'actualité.
Oui. Vous avez créé avec Madame Hérault, en 2014, l'association Initiative au pluriel pour l'avenir des grands fleuves, que vous présidez encore aujourd'hui. Alors, avant qu'on rentre dans le livre, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de cette association Initiative et de la CNR en général, et quelle place ont eu ces deux structures dans la réalisation générale de votre ouvrage.
Alors, merci pour ces bonnes questions, et je suis heureux de venir et de revenir à chaque fois. Vous savez, la phrase africaine que j'aime bien, tout le monde peut venir, tout commence seulement quand on revient. Et ça, c'est pas idiot parce que c'est vraiment ça. Et donc, il y a des liens très forts avec Bordeaux, notamment parce que mon premier éditeur était Jean Cayrol, qui était ceux que les plus anciens d'entre vous se souviennent, qui était un poète, qui était là et qui était un Bordelais. Alors, il se trouve que ma formation première est la formation d'économie, en économie du développement, et spécialisée dans les matières premières. Quelque chose qui n'était pas du tout à la mode, puisqu'on disait pourquoi tu n'es pas dans le numérique, pourquoi tu n'es pas dans les services, etc. Et comme vous voyez maintenant, de plus en plus, les matières premières sont au rendez-vous. Donc, j'avais commencé à travailler il y a 15 ans sur le coton, et puis j'avais travaillé sur l'eau. Donc, j'avais fait un tour du monde de l'eau, et j'avais écrit L'avenir de l'eau après 2 ans et demi de reportage. Et beaucoup de gens m'avaient dit écoutez, tout ça est très sympathique, intéressant. Mais c'est exotique. S'il y a une chose qui est sûre, jamais nous ne manquerons d'eau en France. Et notamment dans ta Bretagne, dans ton humide Bretagne. Résultat, 500 millimètres d'eau en Ille-et-Vilaine cet été, et mon département à moi, les Côtes d'Arbor, en alerte sécheresse avec des interdictions partout. Donc, c'est pour ça que il y a 7-8 ans, j'avais décidé de revenir sur cette affaire de l'eau. Et c'est là où j'ai rencontré une dame qui, à l'époque, était présidente de la Compagnie Nationale du Rhône. Et alors, c'est une institution très intéressante, née de la vision d'un maire, qui s'est dit, je vais réunir dans une même entreprise une division des barrages, pour produire de l'hydroélectricité, qui nous donnera de l'argent. Comme ça, on pourra aménager la vallée du Rhône pour aider au transport fluvial, au lieu qu'il y ait des camions, comme on voit beaucoup, et qui permettra aussi l'irrigation. Donc il y avait les trois fonctions, ce qui n'existe pas dans le monde, où il y a une entreprise qui fait des barrages, une entreprise qui s'occupe du transport, et une entreprise s'occupe de l'irrigation. Comme si les trois n'étaient pas liés. En plus, il y a, comme vous savez, une partie du Rhône qui est en Suisse, mais il y avait une bonne entente qui s'était tissée entre la petite partie suisse et la grande partie française. Donc, l'autre originalité de cette entreprise, unique au monde, c'est que vous avez à 49% le privé, pour maintenant Engie, à 30% l'État, c'est-à-dire la Caisse des dépôts, et à 20% les collectivités locales. C'est-à-dire qu'on se met ensemble pour gérer cette ressource incroyable qui s'appelle un fleuve. Donc ça, et on s'est dit, ça, si on faisait une association pour défendre les fleuves. Parce que quand vous défendez l'eau, évidemment c'est essentiel l'eau, nous sommes tous constitués d'eau, mais l'eau c'est une matière. Quand vous défendez une rivière ou un fleuve, c'est un être vivant. Un être vivant qui a donné naissance à toutes les religions. C'est un être vivant que vous pouvez adopter. Vous pouvez même lui donner une entité juridique, vous voyez. Donc c'est plus facile de défendre un être vivant plutôt que défendre une matière. Donc c'est pour ça que dans ce livre, après 3 ans de nouvelles enquêtes, il y a 33 fleuves du monde. Ça va depuis l'Amazone jusqu'au tout petit fleuve de 72 km de chez moi, qui s'appelle le Trio.
On va en parler de celui-là. Voilà. Et s'il était nécessaire de montrer votre attachement à l'eau, je rappelle que, entre autres, l'exposition coloniale qui vous a valu le Goncourt, c'est parce que vous avez, navigué sur l'Amazonie, hein, où vous dites d'ailleurs, page 18, l'eau et l'EVA, le dialogue du fleuve et de la forêt, et puis votre nom de plume lui-même. Hein. Orsena, vous le rappelez, hein, c'est quand même l'hommage que vous pouviez rendre au professeur de géographie Julien Gracq, hein, l'auteur du Rivage des Sirtes, puisque la fameuse cité-état du Rivage des Sirtes s'appelle la seigneurie d'Orsena. Et je rappelle que Julien Gracq vivait au bord d'un fleuve royal, dont vous parlez d'ailleurs, puisqu'il résidait à Saint-Florent-le-Vieil, au bord de la Loire.
Au bord de la Loire. Donc tout ça est là. Et vous imaginez que je me suis rendu compte avec effroi que j'ai eu le Goncourt il y a exactement 34 ans. Vous vous rendez compte ?
Mais c'est parce que vous l'avez eu très jeune et que vous êtes encore très jeune, c'est pour ça.
Oui, enfin, ça peut aider. Mais c'est difficile de donner ce traitement à tout le monde.
C'est vrai.
J'ai demandé à la Sécurité sociale, il pensait à donner.
Alors, je vais lire un court passage de votre introduction. Je vous cite, hein. « Pour qui s'intéresse à l'évolution de nos sociétés, pas de meilleur sujet d'étude que l'eau. Elle est le plus fidèle et le plus indiscret des miroirs. Dis-moi comment tu produis de l'eau, par le secteur public ou par des entreprises privées, au profit de qui et à quel prix tu l'offres, et je te dirai à quel type de société tu appartiens, féodale ou libérale, démocratique ou dictatoriale, respectueuse, écologique entre guillemets ou dévastatrice. » Alors, fort d'un principe auquel vous tenez, mais qui peut être tout à fait débattu, qui ferait un beau sujet de dissertation, page 16, le savoir accroît le plaisir. On pourrait en discuter un bon moment.
Vous êtes contre ?
Non, je dis que c'est un sujet de dissertation. Je veux pas.
Ah ben, on est clair.
Et mon opinion n'intéresse personne.
C'est aussi un sujet d'expérience personnelle.
Ah d'accord, ok.
Enfin, on est entre adultes consentants là.
Écoutez, on va pas.
Enfin, la salle est dans l'obscurité.
La salle est dans l'obscurité, donc moi je parierai pas. Vous vous êtes interrogé sur votre passion sur les cours d'eau et vous avez trouvé 5 motifs après cette introspection à votre passion sur les cours d'eau. Et en fait, on peut appeler ça les 5 piliers du fleuve. Le fleuve est un chemin, une force, un royaume, un récit, y compris religieux. Et enfin, le fleuve, c'est le temps. C'est une très très belle phrase parce que vous écrivez merveilleusement bien. Parlez-nous de ces 5 piliers, non pas de la sagesse, mais du fleuve.
Alors, d'abord, évidemment, le fleuve est un chemin parce que beaucoup d'explorations ont eu le fleuve pour chemin d'entrée. C'est pour ça que pour entrer, par exemple, dans les profondeurs de l'Afrique, sans savoir où étaient les sources, on a remonté les fleuves. Parce qu'autrement, il y avait des forêts, ou il y avait des déserts, on a remonté. C'est une force parce que, évidemment, une double force. C'est une force parce que ça crée des barrages, évidemment. On peut imaginer l'hydroélectricité, mais aussi ça transporte sur son dos des marchandises, évidemment. Donc ça, il y a une sorte d'énergie comme ça. Et puis, c'est évidemment une histoire, parce que toutes les religions, sans exception, ont eu le fleuve pour source. Et si je peux me permettre, si un jour vous quittez cette ville merveilleuse de Bordeaux pour des petites vacances, allez à Lyon, parce qu'à Lyon, au musée des confluences, à la confluence entre la Saône et le Rhône, il y a une formidable un musée et une formidable exposition qui s'appelle Nous les fleuves, que j'ai l'honneur d'avoir conseillé scientifiquement. Et vous allez voir, ils ont trouvé des trucs incroyables. Ils ont trouvé des objets. Je vais vous donner un exemple qui montre bien que le fleuve, c'est lié à des religions et lié à des mythes qui viennent des fleuves. C'est par exemple une harpe Ngombi. Une harpe Ngombi, c'est une harpe qui est une sorte de jouet qui est pas très grande, grande comme ça, avec des cordes. Et aucun être humain n'a le droit de jouer de ces cordes. C'est seulement le vent qui fait vibrer ces cordes. Et quand le vent fait vibrer les cordes, c'est le lien entre le ciel et les divinités subaquatiques. Il n'y a que des histoires comme ça. Si vous avez l'histoire du Gange, c'est l'histoire d'une colère d'une déesse qui n'en pouvait plus. Et une autre dit que non, non, il ne faut pas noyer la terre. Donc elle met sa tête sur la sorte d'averse gigantesque. Et comme elle a des cheveux, à la différence d'autres, ça s'écoule doucement sur la terre. Et comme ça, la terre est épargnée. Et c'est ça, Ganga, etc., etc., etc. À chaque fois, vous avez dans à la fois dans la Bible, mais aussi dans le Coran, les quatre fleuves du paradis, etc. Vous avez un dieu des crues en Égypte qui s'appelle Hopi, etc., etc.
Vous parlez d'Alphée, hein, dans votre
partout. Alphée, qui est extraordinaire, c'est ce fleuve qui tombe amoureux d'une nymphe et qui s'en va et qui revient après sur la terre. Et qui est d'ailleurs, c'est à peu près ce qui se passe avec le Rhône, parce que la partie suisse du Rhône, vous voyez, qui descend d'un glacier qui est en train de fondre à grande vitesse, qui traverse le Valais et qui plonge sous le lac Léman, enfin dans le lac Léman, mais dans les profondeurs, et petit à petit commence à se mélanger et il s'unit vraiment au lac Léman juste devant Lausanne, etc. etc. Donc, c'est quand vous êtes fou d'histoire, parce que mon papa, ma maman, tout le monde, mes grands-parents, tout le monde racontait des histoires. Donc, un fleuve vous tendez l'oreille et vous raconte des histoires. Donc, vous voyez, c'est tout ça en même temps, un fleuve. Donc, et en même temps, c'est ce qu'on disait, le miroir, pas pour voir sa gueule, mais pour voir les sociétés. Vous regardez et puis vous dites, tiens, comment on gère les fleuves. Vous voyez, quand ça s'articule. Si vous prenez la guerre en Ukraine, vous voyez qu'un des éléments dont on parle pas, c'est la gestion de l'eau en Crimée. Parce que le grand fleuve d'Ukraine s'appelle le Dniepr. Il part de Russie, pas très loin de Saint-Pétersbourg. Il traverse la Biélorussie et après, il fait une longue boucle comme ça vers l'est et il se jette juste au-dessus de la Crimée. Dans les années début des années 60, les soviétiques ont creusé un canal pour qu'il y ait une partie de l'eau du Dniepr qui donne de l'eau à la Crimée. Évidemment, quand il y a eu l'invasion en 2014, les Ukrainiens ont donné moins d'eau, etc. etc. Donc, et c'est pour ça que, sachant ma passion pour les fleuves, l'école de guerre m'a demandé d'être prof. Donc, je suis prof de géopolitique des fleuves à l'école de guerre. Et si vous voulez, on parlera par exemple des batailles pour le Nil. Et donc, ce genre de choses. Vous voyez, c'est inépuisable. C'est pour ça que ce livre paraît gros. Mais, en fait, il aurait pu être beaucoup plus, et en tout cas, beaucoup plus cher qu'il n'est.
Alors, dans
n'oubliez pas, bon, au début, j'étais prof d'économie.
Dans un des 33 fleuves que vous nous présentez, on viendra tout à l'heure très vite sur le Trieux, parce que c'est le plus petit, puis c'est le plus touchant. Il y en a un qui est très touchant, mais touchant parce que c'est le théâtre d'une scène ou d'un échange avec votre épouse Isabelle. Vous voyez à quoi je fais référence, c'est le Mékong. Votre épouse est médecin vasculaire. Et vous dites, elle visionne sur ton ordinateur nos canalisations intérieures parfois bouchées. Bon, mais elle les écoute aussi, dites-vous. Et là, vous êtes tous les deux au bord du Mékong, à Luang Prabang, enfin dans au Laos, hein, où il y a des énormes travaux de barrages. Et elle vous dit, enfin, vous écrivez, pardon, au fond, elle et moi, c'est pas 138, le médecin et l'écrivain reporter faisions le même métier. Je m'occupais des grands fleuves qui irriguent la planète. Elle prenait soin des plus petits, ceux qui transportent l'oxygène et la vie jusqu'au bout de nos doigts et jusqu'à la pointe de nos pieds. Puis plus loin, vous ajoutez, quelque chose nous disait que ces deux échelles allaient se parler et que le tout petit allait avoir des choses à dire au plus grand et réciproquement. Nous n'avons pas été déçus. Selon d'anciennes vérités, le tout, T-O-U-T, en capital, parce que vous l'écrivez en capital, est inscrit dans le microcosme. De là vient notamment la vérité des jardins. Ma question, elle n'est pas médicale, elle continue à filer la métaphore. Est-ce que les grands fleuves sur la planète sont menacés de thrombose, selon vous, ou est-ce qu'il y a des ruptures d'anévrisme qui nous menacent?
Mais absolument. Si vous allez visiter cette exposition, vous allez voir sur 4 mètres de long et 3 mètres de haut, vous allez voir, alors vous imaginez à quel point ça me concerne, des chevelus, c'est-à-dire tous les bassins du monde, tous les grands bassins du monde. Et ces chevelus sont exactement des images de radio, de scanner, exactement la même chose. Et quand on s'est retrouvé, ma femme et moi, face aux travaux qui vont donner le barrage de Xayaburi sur le Mékong, on regardait bien sûr, mais elle a fermé les yeux. Elle m'a dit c'est pareil. C'était quoi? C'est que un médecin vasculaire, il regarde sur l'ordinateur, comme vous avez dit, le parcours, mais en même temps, il ferme les yeux parce que quand c'est bouché, ça fait un bruit particulier, évidemment. Comme les cardiologues, quand ils entendent un battement de cœur, c'est exactement la même chose. Et elle me dit, regarde. Après, on a rouvert les yeux. Elle m'a dit, regarde, il y a une dérivation. Donc, ça fait un bruit de tonnerre parce que les os s'engouffrent dans un passage plus étroit, exactement comme vous avez quand vous avez un athérome. Et donc, vous voyez, c'était alors que quand on était le matin même à Luang Prabang, une ville d'ailleurs que je vous recommande vraiment de visiter, qui est une merveille d'harmonie, de paix, de. Un sublime, et donc c'était la paix, alors que là c'était une sorte de bataille entre les éléments. C'est pour ça que nous nous sommes dit, nous y travaillons d'arrache-pied, elle et moi, un fleuve qui va s'appeler ces fleuves qui coulent en nous, parce qu'il y a évidemment le sang, mais il y a par exemple la lymphe. Qui connaît le parcours de la lymphe? Qui sait ce qu'est un ganglion? Ben, les ganglions, c'est justement un endroit où il y a des sortes de blocages, un peu comme un fleuve qui est mal entretenu, vous voyez. Donc c'est exactement, ça me fascine ça, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre le corps et la planète. Vous savez, on a beaucoup parlé de la planète Gaïa, etc. Mais quand on va un peu dans les détails, c'est très 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 fascinant. Quand vous prenez par certaines gravures de la Renaissance, et même avant du Moyen-Âge, vous voyez qu'il y a des représentations du corps qui sont des représentations de la planète. Et quand vous voyez l'homme de Vitruve de Vinci, c'est exactement la même chose. Vous voyez cet homme-là comme ça. Et ben c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que ça me fascine, parce que vous pouvez passer dans la médecine, vous pouvez passer évidemment dans l'hydrologie, et c'est pour ça que dans notre association, Initiative pour l'avenir des grands fleuves, on a voulu des gens de disciplines complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des ingénieurs, énergéticiens, hydrologues, etc. Il y a évidemment des climatologues, mais il y a aussi des historiens des religions. Vous voyez, il y a aussi un grand médecin, il y a aussi, etc. Vous voyez, et puis aussi un militaire. Donc, vous voyez, toutes ces questions pour comprendre les fleuves. C'est pour ça que c'est passionnant de parler des fleuves plutôt que de l'eau. L'eau, c'est évidemment essentiel, encore une fois, mais quand vous êtes dans les fleuves, c'est un nid d'histoire absolument incroyable.
Alors, il y a le plus petit des fleuves que vous évoquez, il s'appelle le Trieux, hein, et vous dites d'ailleurs, dans un titre plein d'optimisme, la taille ne fait rien à l'affaire.
Ça, vous vous rendez compte, ça me concernait, ça aussi.
Vous dites que ce fleuve, c'est mon premier amour, le premier de tous mes fleuves, le premier sur lequel j'ai pêché, navigué, le plus souvent reculé, les jours sans vent, emporté par la marée montante jusqu'au 15e siècle et le château de la Roche-Jagu. Alors, je précise pour ceux qui connaissent pas le coin, c'est dans les Côtes d'Armor, hein. Et c'est-à-dire pour ceux justement qui connaissent le coin ou pas, bien au-delà donc du pont de Les Ardrieux et de la Feume de Lens du Lait d'Anneau, hein, vous êtes presque arrivé à Pontrieux. Alors vous nous invitez à en descendre le cours du Trieux, ce qui est passionnant avec ce fleuve, c'est qu'il constitue une belle illustration de la dynamique de la culture littorale. Et j'emploie ici vos propres termes. Expliquez-nous comment un fleuve aussi petit que le Trieux, qui fait à peu près 72
kilomètres,
hein, dites-nous comment, à lui tout seul, il peut dire l'histoire multiséculaire d'un territoire. Alors non seulement l'histoire politique, mais l'histoire religieuse, l'histoire économique, même un petit fleuve comme ça.
Parce que d'abord son nom, Trieux, c'est le breton très, ça veut dire le passage, étrangement. Puisqu'il faudrait un pont pour le traverser, mais en fait, c'est le fleuve lui-même qui est un passage. C'est un passage, en fait, entre l'intérieur et l'extérieur, et le littoral. Donc, c'est le lieu où on peut faire de commerce. On vend des céréales et du lin et du bois aux Anglais. Mais les Anglais, ils peuvent venir pour les prendre de force. Vous voyez ? Donc, c'est la paix et la guerre. C'est un lieu aussi, évidemment, où il y a de la nourriture parce qu'il y a des poissons. Il y a des saumons. Dans cette époque-là, il y a beaucoup de saumon. Il y a beaucoup d'huîtres, comme à Tréguier. C'est un endroit où il y avait énormément d'huîtres. Huîtres dont on fait plusieurs choses. D'abord, on les mange et puis ensuite, on les concasse. Donc, ça donne une sorte de, vous voyez, de complément pour la construction. Et puis, il y a les goémons qui servent, ça donne de l'iode et ça sert aux engrais pour les plantes, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Et puis, il y a des ports. Il y a des ports de cabotage où on peut se réfugier quand il y a de la tempête et puis on repart un peu plus loin. Donc et il y a des mini constructions navales et donc voilà, c'est tous ces endroits-là de Paimpol et tout ça, ces mécanismes. Donc comme vous dites très très bien, c'est des cultures multiples qui sont accueillies par les fleuves et la taille ne fait rien à l'affaire parce que ce tout petit fleuve, il y a des tas de choses. Et puis alors en termes d'apprentissage pour les marins, évidemment il y a les marées. Des marées qui, chez nous, en Bretagne Nord, sont très fortes, puisque on peut aller jusqu'à 11 mètres entre marée haute et marée basse. Donc, imaginez, donc jusqu'à 60 km, il y a quasiment plus d'eau. Et puis, en biodiversité, c'est inouï, parce qu'il y a tous les animaux marins sur la vase, sur les choses comme ça, etc. Donc, et puis, il y a des lumières incroyables. C'est pour ça que, dans l'endroit où était, par exemple, Ogivy, il y a eu Signac, il y a eu des gens qui sont là, c'est-à-dire il y a eu l'école de Pont-Aven plus bas, et puis il y avait cette école. Pont-Aven, d'ailleurs, c'était la Veine et tout ça. Donc c'est infini. C'est-à-dire vous avez une sorte de film qui se déroule devant vous, et donc vous n'avez plus qu'à raconter. Donc mon métier est la marque d'un homme paresseux.
Alors on va commencer par un fleuve, à Bordeaux, on peut pas en faire sans, hein, dont vous parlez, c'est la Garonne. Et vous citez une note de Martin Malvy, qui a été président de l'agence de bassin à Dour-Garonne. Et dans cette note, Martin Malvy tire la sonnette d'alarme. En disant attention, la Garonne est en danger. Alors expliquez-nous ça.
Alors, quand je vais rencontrer le maire de Toulouse, monsieur Moudinc, j'étais pour une mission, j'avais été plusieurs fois, mais là c'est une mission précise pour ouvrir les bibliothèques. Donc je le vois, le téléphone sonne, il me dit c'est le préfet de région, Pascal Maillot, à l'époque, et qui veut vous voir. Je vais voir le préfet et qui me dit j'ai plus d'eau dans la Garonne, qu'est-ce que je fais? Et donc, c'est ça la question. Pourquoi il n'y a plus d'eau? Pour une principale raison, c'est que il y a moins de glaciers dans les Pyrénées, comme on sait, tous les glaciers fondent. Donc, il y a moins d'eau qui arrive, premièrement. Deuxièmement, il y a plus d'eau qui est prélevée de deux manières. D'abord, évidemment, par l'agriculture, ce qui est normal, puisque les plantes ont... Enfin, tous les êtres humains ont besoin d'eau, dont les plantes. Donc, c'est normal. Mais aussi, il y a l'urbanisation. Donc, évidemment, il y a plusieurs milliers de gens qui s'installent à Toulouse. Ça a été à un moment donné la même chose à Bordeaux. Donc, évidemment, chacun a besoin d'eau. Donc, il y a des sources qui diminuent et puis il y a des consommations qui augmentent. Donc, à un moment donné, entre les deux, c'est plus trop possible. D'autant plus qu'il y a le dérèglement climatique qui entraîne une sorte de fin de climat tempéré. C'est-à-dire, où vous avez trop d'eau, vous n'avez pas assez d'eau. C'est ça l'affaire. Et quand vous avez trop d'eau, ça ruisselle et vous ne pouvez pas l'utiliser tellement c'est violent. Et puis, quand les sols sont, on l'a vu cet été, quand les sols sont très secs, ils n'entrent pas dans les phréatiques. Ils ruissellent directement sur le fleuve et ils s'en vont à toute vitesse sans qu'on puisse vraiment les utiliser. Donc, vous voyez, c'est la situation actuelle. Donc, et j'en parlais avec le maire il y a un quart d'heure, je suis en train de faire avec quelques amis un tour de France des solutions. Parce que moi, j'aime bien raconter, j'aime bien alerter, j'aime bien émerveiller, mais j'aime aussi proposer. Parce que ça sert à rien autrement de faire peur et tout ça. Parce qu'il y a toutes sortes de solutions. Il y a des solutions de recyclage, il y a des solutions d'utiliser d'autres variétés pour les plantes qui demandent moins d'eau, il y a moins d'artificialisation des sols dans les villes, etc., etc. Il y a des tas de solutions. Donc on va faire, alors c'est des batailles évidemment, et donc on va faire un tour de France en disant c'est possible. Et donc par exemple, je vais passer les 14 et 15 novembre avec en Occitanie, c'est-à-dire à Montpellier tout autour, et on va visiter 6 sites de réponse à justement la sécheresse. Parce que évidemment, ça va recommencer. Et ça, c'est une question qui est très large, parce que ça aborde un autre livre que j'avais écrit il y a 3 ans, qui s'appelait « Géopolitique des moustiques ». Pourquoi ? Parce que je suis ambassadeur de Pasteur, je suis au fauteuil de Pasteur à l'Académie, et je voulais travailler sur ces petites bêtes. Et bon, on se rend compte que avec la chaleur en ce moment, les moustiques ne sont pas morts. C'est-à-dire qu'il y a des moustiques, alors que généralement, en octobre, il n'y a plus de moustiques. Et comme les moustiques sont potentiellement porteurs du virus de la dengue, vous voyez ce que ça veut dire. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses. J'essaye d'être reporter des transitions et de l'articulation des transitions. Et pendant longtemps, on m'a dit « Ah, touche à tout, touche à tout. » Mais c'est la vie qui touche à tout. Vous voyez, c'est la vie qui touche à tout. Je reçois un appel. Bonjour, monsieur, voilà, vous ne me connaissez pas, j'ai pas cet honneur, voilà, je suis responsable à EDF du programme nucléaire. On m'a dit que vous connaissiez bien les questions d'eau, est-ce qu'on pourrait se voir? Et donc j'ai vu, vous n'avez pas de programme nucléaire s'il n'y a pas assez d'eau. Pour deux raisons, d'abord parce qu'il faut refroidir les centrales, et d'autre part, il faut faire très attention, vous n'allez pas... Comme vous allez refroidir une centrale avec de l'eau déjà chaude, et en tout cas, quel impact ça aura les 2, 3, 4, 5 degrés supplémentaires de l'eau que vous aurez rejetée? Donc vous voyez, on est au cœur de là, c'est pour ça que l'eau est au fond au cœur des transitions. Et c'est pour ça que ça me passionne d'avoir cette sorte de, un peu, vous voyez, de culture générale, d'articulation de toutes ces transitions dans lesquelles nous allons obliger de plonger, si je puis dire, et qui vont mettre en péril notre démocratie, qui est déjà difficile, parce qu'on a du mal à s'entendre. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire entre Français. Donc comment est-ce qu'on va réussir à partager une ressource de plus en plus rare. On voit ce qui se passe. Je vais vous dire un truc, par exemple, mais c'est sans arrêt maintenant. Au mois de mars, j'ai été invité par le président de la Fédération française de golf. Et il me dit comment vous voyez les choses. Alors, il y avait 200 directeurs de golf. Je lui ai dit, méfiez-vous, les petits loups. Méfiez-vous. Les gilets jaunes, ils vont pas s'arrêter au rond-point. Si on leur interdit de mettre de l'eau dans leur petit jardinet et qu'ils voient de l'eau sur les greens, vous allez voir, boum, et ben ça a pas raté. Il y en a qui disaient oui, disaient regardez ce qu'on fait, tout ça, ce qui est vrai. Plein de golfs sont des laboratoires de meilleur usage. Je vais pas du tout les condamner globalement, mais d'autres disent non, non, tout ça c'est débile, vous etc. Boum, ils se sont fait. On a vu le golf de Saint-Cloud complètement laminé par des gens qui ont. Et c'est pas possible. Donc ce que je veux dire, c'est que l'eau, c'est aussi le rendez-vous de notre démocratie, c'est-à-dire de notre capacité, plus exactement notre république, de notre capacité à vivre ensemble. Vous comprenez pourquoi ça m'intéresse?
Je note que quand vous étiez à l'Élysée pour écrire les discours de François Mitterrand, c'est Jacques Attali hein, qui l'accompagnait à Saint-Cloud pour faire le golf hebdomadaire. C'est pas vous. Hein.
Si, j'y étais aussi.
Ah, vous y étiez aussi. D'accord. Bon, merci.
Oui, oui.
Pour cette...
Moi, j'essaye de me faufiler.
Oui, oui, merci.
Ce que je vous ai dit.
Comme les fleuves. Alors, justement, dans votre livre, il y a plein d'histoires passionnantes. On va parler du fleuve Royal, le plus grand fleuve de France. Alors, à côté de, évidemment, du Nil, de l'Amazone, du Congo, du Mississippi, ça fait un peu à l'échelle de la France. Enfin, c'est 1006 km quand même, de la Loire. Hein, réussi à passer les 1000. Donc, quand on apprenait les fleuves à l'école avec ces grandes cartes qui étaient au mur, on savait que c'était la source, c'était le mont Gerbier d'Aujon et non pas Déjon, comme on dit souvent à tort. Mais là, on se rend compte en vous lisant. Alors, d'abord, c'est une petite commune de Sainte-Eulalie en Ardèche. Il y a déjà un débat, une querelle sur la source de la Loire. Les sources de la Loire, il y a trois sources possibles, dites-vous. Il y a un débat, savoir où démarre la Loire.
Bah oui, parce que évidemment, quand on peut dire ça vient de là, c'est un atout pour le tourisme. Ouais. Donc évidemment, on peut dire ça. Donc ils se battent là-dessus. Moi, ça m'amuse, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a avant? Qu'est-ce qu'il y a là? Par exemple. Des gens disent, mais pourquoi le Rhône s'appelle pas la Saône, au fond? Parce que c'est comme ça, parce que le Rhône est masculin, la Saône est féminine, et tout ça, ça veut dire quoi, déjà, le féministe, tout ça, etc. Il y a des batailles en disant, qu'est-ce qui est le plus fort, pourquoi, le moment, c'est quoi en haut, ça veut dire quoi, vous voyez, la lutte sur les origines. Et donc, moi, c'est marrant, parce que... Et la bataille sur les sources, je travaille là-dessus, justement, les livres que je suis en train d'écrire avec ma femme, parce que là... La recherche des sources des deux grands fleuves africains, c'est-à-dire le Niger et le Nil, ont donné l'occasion d'incroyables explorations.
Oui, là, le Nil, on connaît l'histoire.
Alors, je vous parlerai du Nil après, mais le Niger, il y a un livre exceptionnel qui s'appelle Water Music. D'un type s'appelle T.C. Boyle, B-O-Y-L-E. C'est exceptionnel, qui raconte l'histoire de Mungo Park, qui a été là-bas. Parce que le Nil, on pensait qu'il était relié au Niger. On pensait qu'ils avaient la même source. Et qu'en remontant le Niger, on allait tomber sur le Nil. Vous voyez, ce genre de choses. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a été à peu près contemporain aux batailles pour bien comprendre la circulation du sang. Avec les deux circulations, la petite, juste le poumon, et le reste, l'ensemble du corps. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est ce grande circulation, vous voyez, c'est ces deux éléments-là. Et donc, le Niger, lequel Niger, comme tous les fleuves de l'Ouest africain, sont menacés. Parce que le fleuve Niger, il vient d'un massif qui s'appelle le Fouta Djallon, qui est en Guinée. Et vous savez que un arbre, il pompe l'eau et il dégage de l'humidité au-dessus de lui. Donc vous avez des milliers d'arbres. Vous avez une sorte d'étang de vapeur au-dessus. Et cet étang de vapeur, à certains moments, la pluie tombe et il y a une sorte de cycle qui se met en place. Et on appelle ça, par exemple, au-dessus de l'Amazonie, des rivières volantes. Parce qu'au-dessus de l'Amazonie, vous avez cette gigantesque étang de vapeur, et quand vous avez du vent qui vient du nord, cet étang de vapeur est poussé vers São Paulo, et c'est là où, par exemple, il y a des déferlements d'eau qui donnent naissance au fleuve Paraná. Donc vous voyez, tout ça, c'est...
Dont vous parlez aussi.
Ben, oui, parce que le Paraná, c'est... Il y a d'autres éléments. Le fleuve Paraná, c'est le fleuve du soja, mais sous le soja, il y a de la cocaïne. Donc... Voilà, etc. Donc, voyez ce genre de mécanisme-là. Alors, il se trouve que ce Fouta Djallon, il est deux fois menacé, comme toutes les forêts, parce que on abat les arbres pour accroître la superficie des champs, mais aussi que une partie de ce massif dans ses sous-sols de la bauxite, c'est-à-dire du minerai de l'aluminium, qui a été vendu principalement aux Chinois, des concessions qui sont en train de dévaster pour exploiter. Et vous savez que l'aluminium est très, très demandé parce que c'est plus léger, parce qu'il n'y a pas de corrosion, parce que c'est un métal absolument formidable. Donc, vous voyez ces mécanismes-là. Imaginez une seconde ce qu'il en serait de la situation de l'Ouest africain s'il n'y avait plus de fleuve Niger, plus de fleuve Sénégal, plus de fleuve Gambie. C'est là-dessus, et c'est pour ça que notre initiative pour l'avenir des grands fleuves, et à la semaine dernière, nous allons monter une mission pour essayer de sauver ce Fouta, parce que si on ne sauve pas cette forêt-là, il n'y a plus de fleuve africain. Vous voyez déjà dans quel état est cet Ouest africain qui a été vraiment mon autre patrie et dans laquelle je ne peux plus aller.
Vous dites que le Niger, c'est un peu votre fleuve préféré. Hein. Vous oui, en parlez parce... avec beaucoup d'émotion. Vous dites que vous avez 5 fois été sur le Niger, hein, dans le paquebot, là, dont une fois pour les 15 ans de votre fils. Et vous dites en particulier que vous êtes remonté, vous avez descendu le Niger avec la musique d'Ali Farka Touré. Enfin, c'est absolument magnifique parce qu'après, ça nous amène aussi au pays d'Ogon et à la falaise de Bandiagara. Enfin, c'est absolument remarquable. Je voudrais qu'on reste un peu en Europe et qu'on évoque un fleuve qui fait 2850 km de long, qui traverse ou longe 18 États. Donc, il prend sa source en Allemagne, à Donaueschingen, en forêt noire. Et juste un peu plus loin, il y a une autre ville qui est très connue dans l'histoire française, si je puis dire, c'est Sigmaringen. Hein. En fait, c'est un tout petit fleuve quand il est à Sigmaringen, au pied de ce château combien connu, entre autres, Pétain, Laval et accessoirement Céline. Vous citez un fonctionnaire de l'ONU à Vienne, un Slovaque, secrétaire exécutif de la Commission internationale pour la protection du fleuve Danube, et qui vous dit « Le Danube unit des univers qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres. En fait, il relie les siècles. »
Oui, parce que ce Danube... D'abord, il y a un très, très beau livre sur le Danube que vous trouvez, bien sûr, chez Mola. Claudio Magris, qui raconte l'histoire du Danube. C'est absolument merveilleux. Et c'est... On plonge complètement dans la diversité, c'est-à-dire la Mitteleuropa, c'est-à-dire que chaque kilomètre, enfin, vous fait remonter dans une diversité de civilisations. Alors, c'est à la fois la diversité géographique et la diversité temporelle. Donc, la diversité... Alors, imaginez quand vous traversez Vienne, quand vous traversez Budapest, et quand vous repartez comme ça vers la Roumanie, dans
avec
ces
les,
endroits
avec les portes de fer dont
avec
vous parlez.
Les portes de fer qui étaient là, et vous arrivez jusque dans tous ces deltas, donc dans les endroits de légende, dans les endroits où il y avait beaucoup d'empereurs romains, parce que beaucoup d'empereurs romains dans le dernier moment de l'Empire romain venaient de ces endroits-là, parce que c'était des guerriers, c'est là où il fallait lutter contre les barbares de partout. Et donc, imaginez, c'est l'Empire austro-hongrois, enfin, c'est des légendes absolument merveilleuses. C'est évidemment la musique, hein, le Danube bleu, mais pas seulement, etc. Donc, vous êtes. Et alors là, vous posez une question qui est intéressante et qui nous relie à nous. Et c'est une question de principe et j'ai pas de réponse. Il y avait un projet qui a été très loin dans la préparation, qui était de relier le Rhin au Rhône. Parce que on voulait tisser à travers l'Europe un réseau de canaux qui permettrait de circuler sans utiliser les camions. Mais pour aller du Rhin jusqu'au Rhône, du Rhône remonter et puis jusqu'au Rhin, il fallait remonter la vallée du Doubs et il fallait faire des travaux qui agressaient violemment des régions magnifiques et menaçaient quelques espèces. Donc c'était prévu. Et puis Lionel Jospin a bâti une coalition où il y avait les Verts, notamment Dominique Voynet.
Élu de la région.
Et lui, qui était dans la région.
Était élu à Dole.
Exactement. Et donc, qui a dit non. Donc c'est intéressant parce que, donc, on a arrêté ce projet. Et simplement, en arrêtant ce projet qui a sauvé un endroit magnifique et en même temps quelques espèces, mais on a multiplié les camions et multiplié le ferroviaire. C'est-à-dire que vous allez quelque chose, je puis dire, anti-nature, avec des écologistes dont on peut tout à fait comprendre le point de vue, mais qui entraînent l'inverse de ce qu'ils voudraient, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun bateau de marchandises, à peu de choses près, sur le Rhône. Et vous voyez des camions. Et donc, la plupart des livraisons de marchandises à Marseille sont débarqués à Rotterdam et à Anvers et descendent en camion à Marseille. Donc, voyez, on est là au cœur des contradictions qu'il faut affronter. À ce moment-là, on décide, mais il faut bien avoir l'esprit, ce que ça veut dire tout ça. Voyez, c'est ce que j'essaye de le plus honnêtement possible de dire ça, on n'abordera pas la question des mégabassines dans les Deux-Sèvres, vous voyez, les batailles, etc., etc. Mais tout ça veut dire on se trouve là face à des choix avec des vraies logiques qu'il faut entendre chacune. À un moment, on décide, parce que comme je suis à l'Académie française et co-responsable du dictionnaire, il y a un mot que je voudrais supprimer et remplacer par un autre. C'est le mot « impact ». Toute activité humaine a un impact. La question, c'est de savoir quel est le bilan. C'est-à-dire quel est le moins d'impact. Vous voyez, tout ça, je veux dire, on prend la question du fleuve et brutalement, on se retrouve posé par des questions clés de la manière dont on va réussir ou pas de vivre ensemble. Vous voyez, c'est pour ça l'eau, ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, l'eau est le miroir de nos sociétés. Qu'est-ce qu'on choisit ? Et quand on voit, par exemple, qu'on va faire, le canal du Nord entre Le Havre et Rotterdam, je voyais hier, j'étais à Honfleur, au bord de la Seine, il y avait trois porte-containers au Havre. Alors qu'on voit ce que c'est, moi j'étais à Singapour, il y a 1000 bateaux qui attendent. Donc pourquoi ça ? Pour une raison simple, c'est que un port n'est rien si c'est pas connecté avec des canaux, c'est pas connecté avec du train. Et donc, vous voyez, c'est donc l'aménagement du territoire. C'est donc cette science clé maintenant qui s'appelle la logistique. Vous voyez, alors on dit ah, arrête, tout est dans tout, etc. etc. Mais
moi, alors vous voulez le remplacer par quoi, impact ? Impact, vous voulez le remplacer
par bilan.
À part bilan, d'accord.
Par bilan, parce que tout, disant bon, ben voilà, tu. Par exemple, un barrage, c'est un impact, évidemment. Une centrale nucléaire, c'est un impact. Et donc, au lieu d'être ce qu'on a vécu pendant tellement longtemps, circuler, il n'y a rien à voir, le nucléaire, c'est bien. Et puis, on a complètement bousculé dans l'autre sens, on a dit le nucléaire, c'est nul. Donc, il n'y a rien à voir. Donc, d'abord, c'est bien, ensuite, c'est nul. Bah non. C'est ni bien ni nul, c'est comment est-ce qu'on fait étant donné les contraintes. Vous voyez, donc c'est ça, ce genre d'essayer d'aller dans une société un peu adulte, quoi. Alors, qui admet un peu tous les éléments.
Le temps passe trop vite avec vous parce que vous êtes un merveilleux conteur en plus et on vous écouterait pendant des heures. Il y a un fleuve sur lequel je voudrais qu'on s'attarde. Parce qu'on n'a pas le temps, j'aurais voulu qu'on parle de la Drina, affluent du Danube.
La Drina, lisez un pont sur la Drina.
Divo
c'est 100 ans de solitude, Ivo Andrić. D'ailleurs, vous avez bien compris, je suis stagiaire au commercial chez Mola. C'est-à-dire, je dope les ventes chez Mola. Monsieur Denis, tu n'es pas là, mais je suis chez toi, acheter des livres. Alors, demandez à mon cléric, je vous dirai, les recommandations.
Alors, donc, en clérique, vous allez nous dire quelques mots du Jourdain. Oh. Vous racontez comment, au presbytère de Tréguier, dont on a parlé déjà tout à l'heure, la très jolie cité donc épiscopale des Côtes d'Armor, patrie de Saint-Yves, le saint patron des Bretons, patron des avocats, d'Ernest Renan, hein, grand penseur. C'est là aussi qu'il y a la sépulture d'Anatole Le Braz. Hein. Vous passez du temps avec Jacques Pérennes, je ne sais pas s'il prononce bien.
Très bien.
Dominicain, directeur de l'école biblique de Jérusalem. Et il vous convie à déjeuner autour d'une galette de blé noir, dites-vous, et il vous parle du Jourdain. Vous dites c'est un fleuve évangélique, évidemment. C'est un fleuve qui est très court, 360 km. Il est presque à sec au sud du lac de Tibériade. Et il est censé se jeter dans la mer Morte, plus au sud. Pourquoi parlez-vous à propos de ce fleuve, qui est le fleuve, j'allais dire presque, qui se confond avec le Nouveau Testament hein,
complètement, c'est que d'abord...
Parlez d'un triste destin.
Bah, oui, d'abord, c'est vous appelez un appel, bonjour, je suis à côté de chez vous, je suis passionné par l'eau, est-ce que vous accepteriez qu'on prenne un verre au Yacht Club de Les Ardrieux ? J'ai dit, bah oui. Et puis petit à petit, le type arrive, on parle, et puis il me dit, ben voilà, je suis comme vous, moi j'ai fait des études d'économie, puis je vois que c'est pas arrêté là. Par ailleurs, je suis dominicain, et par ailleurs, je dirige l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Il dit, donc à chaque fois, vous voyez, je prenais ma petite galette, et oup, je dis, on monte. Et donc lui, et tout ça, donc il m'entraîne dans des trucs déments. Moi, j'ai perdu la foi, mais il me dit « Ah ben, je vais faire un pardon, là, dans l'église à côté, donc tu veux pas me servir à messe ?» Oui. Donc, non, mais c'était complètement dément. C'était dément. C'était 65 ans après je sers la messe.
Avec l'aube d'enfant de cœur.
Oui. Et il m'a dit « Non, c'est pas comme ça. » C'était énorme. C'était donc voilà. On va faire le portrait du Jourdain. Mais il a, je pars tout le mois d'avril là pour être avec lui pour raconter le Jourdain. Vous imaginez ce que ça va être du plateau du Golan jusqu'à en descendre. Là, c'est des scènes complètement démentes parce que le lac de Tibériade. Et puis après, il y a une vingtaine de kilomètres qui est réservé à des baptêmes. Alors, des baptêmes, il y a des baptistes et il y a les religieux qui sont les copains de Bolsonaro qui sont là. Alors, c'est des scènes, je vais vous dire, qui sont comme ça. Alors, vous voyez des dames et des messieurs, d'un grand âge et d'un gros poids, et qui sont là et disent « tout bien, hein, bichou, bichou, tout bien, Jésus, 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 Jourdain, Jourdain, tout ça, etc. » C'est complètement ridicule. Et donc, après, il n'y a plus d'eau. Parce que c'est pompé par les Israéliens, tout ça, etc., pour faire des pamplemousses. C'est un truc complètement incroyable. Donc j'y avais été déjà, mais trop rapidement. Donc je vais aller avec ce pote, ce nouveau copain. Et donc voilà. Donc c'est ça l'amitié aussi. Parce que évidemment, on peut pas tout savoir. Donc, mais comme ils sachent, je fous les fleuves. Donc c'est un réseau mondial comme ça. Il faut qu'on parle un peu du Nil, non ?
Oui, oui, oui. Ben justement, on va en parler parce que c'est un fleuve qui est quand même très, très. Très étonnant ce Nil, puisque d'abord il y a le Nil blanc et le Nil bleu. On pourrait passer des heures entières, évidemment, à parler du Nil. Hein.
Ah ouais.
Alors je vous laisse nous faire découvrir les sources du Nil, un peu comme cher docteur Livingston.
Oui.
I presume. Et parlez-nous de ce fleuve qui est quand même aussi un fleuve qui a donné lieu à des guerres hein, très nombreuses.
Mais c'est qu'un début. Alors. On sait, vous savez, Égypte, don du Nil. On le sait, on l'a appris, Égypte, don du Nil. Bien. Pourquoi ? Parce que, à la différence d'autres fleuves, le pouvoir a toujours été en aval, c'est-à-dire à l'embouchure. Parce qu'il y a eu les pharaons, l'Empire ottoman et la domination anglaise. Donc, on a toujours interdit à l'Éthiopie de prélever plus de 10% de son Nil bleu, parce que le Nil, c'est 80% le Nil bleu qui vient des très hautes montagnes d'Éthiopie, on pense pas, mais c'est 4000 mètres, hein. Et puis le Nil blanc qui vient des lacs qui sont Tanganyika, etc., de l'Afrique centrale, des grandes dépressions de l'Afrique centrale, 80%, 20%. Et puis au milieu, vous avez le Soudan. Et jamais l'Éthiopie n'a eu le droit de prélever plus de 20%, de 80% du débit. Sauf que d'année en année, si l'Égypte a à peu près 95 millions d'habitants, l'Éthiopie en a plus de 100 millions. Et qu'en Éthiopie, entre un quart et un tiers de la population chaque année ne survit que grâce à des compléments alimentaires. Donc il faut développer l'agriculture. Pour développer l'agriculture, il faut avoir de l'eau. Donc les Éthiopiens, sans rien demander à personne, ont construit un barrage juste avant la frontière du Soudan, qui s'appelle le barrage Renaissance. Quand j'étais à Addis, l'ambassadrice de France m'a dit que son collègue égyptien voulait me voir. J'étais le voir, type charmant, élevé religieusement, très bonne école catholique, etc. M'a dit, écoutez, demain, vous visitez le barrage Renaissance, dites-vous bien qu'il n'ira pas à son terme, et que si nous envisageons de vous acheter des rafales, c'est pas pour rien. Parce que la question était là, comprenez bien, c'est que si jamais, et la négociation est en cours, si jamais le barrage qui atteint la fin de sa construction ne délivre à l'Égypte, via le Soudan, qu'une part trop faible de son eau, vous n'avez plus d'Égypte. Il faut bien que, si vous avez été là-bas, vous avez vu en 20 ans que la conurbation du Caire, plus Alexandrie, c'est 30 millions d'habitants. Et que, etc., etc., plus il y a les autres barrages à Soin, etc., toutes ces questions. Donc, vous voyez, c'est extrêmement chaud. Donc voilà, donc c'est ce genre de questions que j'explique à mes élèves de l'école de guerre, parce que depuis 3 ans, je donne des cours à l'école de guerre. Ils m'ont demandé de donner des cours pour apprendre aux militaires un peu quels sont les enjeux de géopolitique sur le partage des fleuves. Vous voyez, parce que c'est ça, c'est le Bangladesh, c'est le Mékong, par exemple, le Mékong. Vous allez donc au Vietnam. Au Vietnam, c'est le delta du Mékong.
Du Mékong, hein.
60% de la production de riz pour le Vietnam est cultivée, évidemment, dans le delta. Tous les deltas du monde sont menacés, tous.
Par une remontée de l'eau salée, c'est ça.
Par plusieurs phénomènes. 600 millions d'êtres humains sont concernés. Pourquoi ? Vous avez une multiplication des barrages en amont. Et donc, vous avez moins de sédiments qui coulent. Qu'est-ce qu'un delta ? C'est l'enfant des sédiments. Si vous n'avez pas des sédiments, bah, le delta, il est plus nourri. Deuxièmement, en général, les deltas, ils sont protégés par des barrières naturelles qui s'appellent les mangroves. Les mangroves ont été ravagées parce qu'on voulait élever les crevettes, parce qu'on voulait urbaniser, etc., etc. De l'autre côté, vous avez évidemment les deltas, dans les temps les plus anciens, des végétations très fertiles, évidemment, qui sont devenues du carbone, donc du gaz, donc du pétrole, donc des forages, donc de l'effondrement. Et en plus, vous avez, étant donné le réchauffement climatique, une sorte de dilatation de l'océan, donc la montée de l'eau. Donc si vous ajoutez moins de sédiments, mort des protections, forage et dilatation de l'océan, vous voyez que tous les deltas sont menacés. Et donc quand vous voyez un pays comme le Bangladesh, qui est un merveilleux pays, vous savez, c'était le Pakistan oriental au moment de la séparation, donc de l'autre côté du Pakistan, le Pakistan oriental, c'est le Bengale, qui est un endroit absolument sublime, où j'ai été 3 fois, c'est merveilleux, ce qui est le double delta du Gange et du Brahmapoutre. Et bien, comme vous avez ce mécanisme, c'est-à-dire des barrages sur le territoire indien et puis des barrages sur le territoire chinois, vous voyez bien que les gens du Bangladesh, en gros, seront, si rien ne change, et on ne voit pas pourquoi ça se changerait en mieux, à moitié sous l'eau, c'est-à-dire que vous aurez 70 millions de gens qui seront sous l'eau. Il faut que vous sachiez un truc, et puis peut-être j'arrêterai là, puis je vous passerai la question, mais parce que je suis... Alors là, je veux dire, ça n'arrête pas, hein. Ça, vous continuez, on peut... Oui, des heures et des heures.
C'est vous qui avez un train à reprendre, hein.
Oui, oui, c'est exact. Mais voilà. Alors, écoutez bien ça, parce que ça, j'ai appris ça, et ça m'a vraiment sidéré. À 500 ou 600 millions d'êtres humains près, la moitié de la population mondiale dépend d'un fleuve qui descend du Tibet. Donc, vous comprenez mieux quel est l'enjeu stratégique de tenir le Tibet. Vous prenez à l'ouest l'Indus, c'est-à-dire le Pakistan, vous descendez d'où descendez, il y a évidemment le Gange, hein, on continue à descendre, il y a évidemment les autres fleuves, il peut y avoir tout ça, il y a Gange, Brahmapoutre, tout ça, il y a l'Irrawaddy, il y a tout ça, ça continue, il y a évidemment le Grand Mékong, il y a le fleuve rouge, il y a le fleuve bleu, le Yangtze, et puis il y a le fleuve jaune, voyez, donc, et tout ça. Et donc vous dépendez de ça. Et j'ai appris il y a peu de temps qu'on dépend encore plus du Tibet qu'on ne pensait. Car les fleuves de l'Ouest africain dépendent du Tibet aussi. Parce qu'il y a un jet stream, c'est-à-dire à 15 km d'altitude, qui se crée à la suite d'une sorte de début d'évaporation des glaciers du Tibet. Donc des sortes de, je disais, d'étangs de vapeur. Et quand vous avez un vent qui vient d'est, il va vers l'ouest africain et à la saison chaude, et c'est ça qui déclenche des déluges de précipitations. Et donc les fleuves de l'ouest africain dépendent aussi du Tibet. Vous voyez, ce qu'il faut bien comprendre, ce que j'avais essayé de comprendre en faisant mon petit livre de vulgarisation sur le Gulf Stream, c'est tous ces échanges à des altitudes différentes. Vous pouvez très bien avoir un courant dans un sens et un courant dans un autre. C'est toujours à la même chose, vous voyez, quand il y a des différences de température, de pression et de salinité. Ça, c'est pour la mer, et de température et de pression, ça, c'est pour les autres. Donc tout ça, c'est des grands mécanismes très, très vivants qu'il faut comprendre. Et franchement, travailler là-dessus, c'est le pied.
Alors, on va... Eric Orsena, je suis désolé, on va devoir donner la parole à la salle pour quelques minutes, mais on va terminer... Un retour dans votre Bretagne, votre fameuse Bretagne, parce qu'on n'a pas le temps de parler du Mississippi, on n'a pas le temps de parler du canal de Panama, c'est passionnant.
Deux
fleuves, bon. Alors, on va terminer par votre Bretagne. À la fin du chapitre consacré justement à votre Bretagne, vous citez la grande poétesse paysanne, Angela Duval, qui est décédée à Lannion le 7 novembre 1981, qui a dit « qui n'aime pas l'eau n'a pas le cœur vrai ». Alors vous, on a compris que vous avez vraiment le cœur vrai, Eric Orsena. Vous avez dit, vous écrivez dans le livre, page 421, « comme vous l'avez compris, ce livre est le livre de ma vie, hein, carrément, avec un L majuscule à l'E ». Et vous dites, à la toute fin de votre conclusion, vous dénoncez quelques préconisations simples. Vous avez dit tout à l'heure que vous voulez faire des préconisations pour sauver les fleuves. Et vous donnez la dernière d'entre elles, « réapprendre à les aimer » avec une morale toute simple. Dites-vous qui tient en trois verbes, s'émerveiller, donc alerter, puis proposer. Ben, je crois que c'est ce que vous avez fait ce soir. Vous nous avez vraiment tenu des propos merveilleux. Merci à vous. On va applaudir Eric Orsena. Merci.